C'est le journal d'Alexis Morel. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le débat sur la légitime défense des policiers est-il en passe d'être relancé? Le gardien de la paix qui a tué deux hommes dimanche à Paris est mis en examen pour homicide volontaire. Colère d'un des principaux syndicats de police qui veut maintenant mobiliser la profession. Mais que dit la loi? Dossier complet dans un instant. Pas encore de nom, mais un profil de plus en plus précis pour le prochain Premier ministre. Emmanuel Macron veut une personnalité attentive aux questions sociales, productive et environnementale, car le titulaire du poste sera chargé de la planification écologique. Nous verrons ce que cela signifie concrètement. Après la présidentielle et avant les législatives, trois invités ce matin à 8h20, Nicolas.
Oui, autour de cette question, la France est-elle sous le coup d'une grande fatigue démocratique? Dominique Reynier, David Jez, Chloé Morin seront les invités du grand entretien. Amis auditeurs, appelez-nous dès maintenant 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, le patron de l'ONU en Ukraine aujourd'hui, du nouveau sur le crash de l'avion d'Égyptair Paris Le Caire, c'était en 2016. Et une question, la loi sur le prix unique du livre peut-elle s'appliquer aux ouvrages 100% numériques?
France Inter.
Signe que l'affaire est très sensible, 4 jours après les faits, toujours beaucoup de questions et très peu de réponses sur les événements de dimanche soir sur le Pont Neuf à Paris. Une voiture qui aurait foncé sur une patrouille de police, l'un des fonctionnaires tire, 2 occupants sont tués. Le policier en question vient d'être mis en examen pour homicide volontaire. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
La justice ne retient pas à ce stade la légitime défense.
Non, même si les investigations continuent pour savoir si cette légitime défense peut quand même être invoquée. Homicide volontaire, ça signifie une peine encourue de 30 ans de réclusion. L'une des principales questions de cette enquête est de savoir où était la patrouille par rapport à la trajectoire de la voiture. Les 6 impacts de balles vont donc être analysés pour savoir d'où sont partis les tirs. Le fusil d'assaut aussi intéresse les enquêteurs, savoir notamment comment il était réglé et pour tirer combien de coups à la fois.
Et cette affaire pourrait bien justement relancer le débat vif sur la légitime défense des policiers.
Ah oui, quelques minutes seulement après l'annonce des chefs de mise en examen, le syndicat Alliance publie un tract pour dénoncer une décision inadmissible et appeler à un rassemblement lundi à Paris. Son rival, Unité SGP, dit prendre acte, tout en précisant ne pas vouloir prendre position pour ne pas nuire aux mises en examen. Le ton, on le rappelle, dans un contexte d'élection professionnelle à la fin de l'année. Le Code de sécurité intérieure définit les critères pour que la légitime défense soit retenue. L'usage de l'arme doit être jugé nécessaire et proportionné. Autrement dit, que le policier est estimé sur le moment qu'il n'y avait pas d'autres possibilités pour mettre fin au danger. Les derniers chiffres de l'IGPN à ce sujet datent de 2020. Cette année-là, les policiers ont fait feu 283 fois. Dans plus de la moitié des cas, 153, les tirs étaient dirigés contre un véhicule en mouvement.
Ariane Grissel du service police-justice d'Inter. Et rappelons dans cette affaire qu'une autre enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Avant la diffusion ce soir d'un reportage de complément d'enquête sur PPDA, France 2 révèle d'ores et déjà qu'une nouvelle plainte pour viol vise le journaliste. Le parquet de Nanterre confirme. Les faits présumés remontent à 95. La plaignante travaillait alors à la rédaction de TF1. Au total, près d'une 20aine de femmes ont déjà témoigné contre lui. Et Patrick Poivre d'Arvor riposte en portant plainte à son tour pour dénonciation calomnieuse.
Il est 8h04, un ultime rendez-vous à l'Élysée, Alexis, avant de faire ses cartons.
Le gouvernement Castex se réunit pour la dernière fois ce midi en Conseil des ministres. La nomination de la nouvelle équipe est attendue d'ici à la semaine prochaine. Qui pour la diriger? Emmanuel Macron a déjà distillé quelques indices en promettant hier une ou un Premier ministre attaché aux questions sociales, productives et environnementales. Le chef de l'État veut aussi que le titulaire du poste soit chargé de la planification écologique. Alors qu'est-ce que ça pourrait changer concrètement? Célia Kiré a interrogé des spécialistes.
Un Premier ministre directement chargé de la planification écologique, c'est déjà un bon signal pour Benoît Leguet, directeur de l'Institut de l'économie pour le climat. Le sujet remonte en haut de la pile. Le locataire de Matignon sera en principe l'architecte des réformes, mais le chantier est titanesque.
On a tous les éléments pour réussir cette transition. On a quand même un projet ambitieux. La transition écologique, c'est transformer l'ensemble de l'économie française en même pas 30 ans. On a un calendrier contraint. Maintenant, il y a tout un tas de choses. Il va falloir surveiller en fait l'ensemble de ces sujets, donc la nomination du PM, son cahier des charges entre guillemets, quel va être aussi son mandat, etc., etc.
Et en effet, il y a des conditions de réussite, anticiper les crises, la hausse des prix de l'énergie, réduire les subventions aux énergies fossiles. Emmanuel Macron a promis 10 milliards d'euros en plus chaque année pour la transition écologique. Les économistes regarderont le budget de près. Enfin, il ne faudrait pas que le ministère de la planification énergétique se réduise à un ministère de l'énergie peu soucieux de l'environnement, analyse Sébastien Treyer de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.
Pour moi, ça dépend de la personnalité politique qui sera nommée et de son engagement. Ça dépendra des premiers arbitrages qui vont être rendus, vis-à-vis de Bercy notamment. Si on veut arbitrer entre climat et biodiversité, il faut aussi que le ministère en charge de la biodiversité ait les moyens de se faire entendre.
Et en effet, où se situera la nature dans cette architecture gouvernementale? La question reste ouverte. La protection des forêts ou de la biodiversité est cruciale pour le climat.
Et pendant que le président se cherche un premier ministre, l'opposition mène déjà la bataille des législatives. Aujourd'hui, le Rassemblement national entre officiellement dans la danse. Lancement de la campagne à Fréjus, dans le Var. Un choix qui ne doit rien au hasard, Anne Souhaitemont. Le département a placé Marine Le Pen en tête dimanche dernier.
55% des voix pour Marine Le Pen dans le Var au second tour. C'est dans un département de conquête que Jordan Bardella va donner le coup d'envoi des législatives. Objectif affiché, y rafler 3, 4, peut-être 5 députés, lui-même pourrait être candidat, histoire de marquer les esprits avec ce lancement de campagne. Car après avoir passé un quinquennat sans groupe parlementaire à l'Assemblée, le RN est cette fois optimiste ou au moins combatif, avec 42% des voix au second tour, au national, et au moins 30% dans plus de 100 circonscription, Marine Le Pen ambitionne de faire élire plusieurs dizaines de députés, même si nous savons que le scrutin majoritaire ne nous est pas favorable, concède une candidate. D'où l'idée de lancer vite, très vite, la bataille législative. Il nous faut envoyer un message à notre électorat, ne pas le laisser se démobiliser, explique un cadre. Envoyer un message aussi au parti d'Éric Zemmour, qui a fait parmi ses meilleurs scores dans le Var, on ne leur fera aucun cadeau.
Tandis qu'à gauche, les négociations entre la France insoumise, écologistes et socialistes ne font toujours pas l'unanimité. Les partisans du rapprochement avec les insoumis se justifient ce matin. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, assure dans le Figaro qu'une coalition n'est pas une soumission. Du côté des Verts, Sandrine Rousseau, l'ex-candidate à la primaire, estime dans Le Parisien que l'alliance est nécessaire. Sinon, je cite, « on va se faire agonir par le peuple de gauche ». Il veut voir de ses propres yeux les conséquences de 2 mois de guerre en Ukraine. Le secrétaire général de l'ONU est arrivé à Kiev. Antonio Guterres doit se rendre dans la périphérie de la capitale, à Boutcha, Irpin, ces villes théâtres de massacres de civils. Mais il vient aussi plaider pour la mise en place de couloirs humanitaires, notamment à Mariupol, où 100 000 habitants seraient toujours bloqués dans le plus grand dénuement, Valérie Crova.
La dernière opération remonte au 6 avril. 1 000 000 d'habitants de Mariupol avaient été évacués vers la ville de Zaporijjia sous la supervision du CICR. Depuis, toutes les tentatives ont avorté. Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement de ne pas respecter les conditions de l'accord permettant la mise en place d'un corridor humanitaire. Des conditions que nous précise Florian Seriex, porte-parole du CICR à Genève.
Le problème majeur, ça va être à chaque fois de réussir à ce que les parties s'accordent sur les détails spécifiques. À quel moment le convoi passerait à tel endroit, s'entendre sur l'horaire, le nombre de véhicules, le type de véhicule. Est-ce que la route est valable pour les deux parties au conflit? Et à chaque fois, c'est à ce niveau de détail, en fait, essentiel, qu'il y a eu des points d'achoppement.
D'un côté, des belligérants qui bloquent sur des détails, de l'autre, des milliers de civils piégés sous les bombes. C'est pour eux qu'il faut persévérer, nuit et jour.
J'ai mes collègues qui reçoivent des appels à 4h du matin, à 3h du matin, pour communiquer sur la possibilité ou non de tenter ces évacuations. Ça, c'est vraiment un effort constant. Il n'y a pas de moment de répit.
Comme en Syrie, où les Russes faisaient mine d'ouvrir des corridors pour les refermer presque aussitôt, l'évacuation des civils est devenue un moyen d'exercer une pression sur l'adversaire, telle une arme de guerre psychologique.
Quant aux conséquences économiques de cette guerre, la flambée des prix des matières premières, on la ressent jusque dans les allées de la Foire de Paris qui s'ouvre aujourd'hui, notamment Agnès Soubiran dans le secteur de l'ameublement.
Pour la première fois l'an dernier, le secteur a franchi la barre des 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une euphorie de courte durée.
Le bois, le métal, la quincaillerie, toutes les matières premières ont des hausses qu'on essaye de contenir évidemment.
Thomas Lio, responsable produit chez Célio, spécialiste français du rangement, des coûts de production qu'il a bien fallu répercuter.
L'augmentation des tarifs, si on le prend depuis 2 ans, en moyenne sur différents produits, je pense qu'on est entre plus 10 et plus 15%.
Sans oublier la question des salaires, plus de 5% d'augmentation l'an dernier,
pour les 206 salariés de l'entreprise.
On se doit de faire suivre aussi le niveau de salaire de nos collaborateurs, donc en les augmentant, et on va encore le faire cette année.
Pour les clients, la facture s'alourdit. Jusqu'à quand l'accepteront-ils? C'est la question que se pose près de Tulle, en Corrèze, Pierre Delmas, à la tête de Néologie, fabricant français de canapés haut de gamme. La mousse, par exemple, vient de subir 3 hausses successives de 10%.
Je ne sais pas comment et à quel niveau de prix on va pouvoir arriver si l'inflation continue comme ça. Moi, j'ai 42 ans, donc je n'ai pas connu de période inflationniste comme ça très forte. J'avoue qu'à horizon de 2 ou 3 ans, je suis un petit peu inquiet de ce qui peut se passer. Oui.
Pour tous, il est donc nécessaire de développer de nouveaux marchés. Néologie s'est ainsi lancée dans la fabrication de fauteuils pour le secteur paramédical.
Hausse des prix et pénurie aussi dans l'alimentaire, notamment pour l'huile de tournesol. Et bien pour la remplacer, il sera difficile de se tourner vers l'huile de palme. L'Indonésie, premier producteur mondial, suspend depuis ce matin toutes ses exportations. Le pays veut privilégier son marché intérieur. Les Indonésiens ont de plus en plus de mal à en acheter de l'huile de palme et Jakarta craint des tensions sociales.
Il est 8h12, c'était le 19 mai 2016 entre Paris et Le Caire. 66 morts, dont 15 Français.
6 ans après le crash d'un avion d'Égyptair en Méditerranée. Un rapport d'experts sur les causes du drame vient de fuiter dans la presse italienne et il bat en brèche la piste d'un attentat avancé à l'époque par les autorités égyptiennes. C'est le Corriere della Sera qui publie ce document, Bruce de Galzin.
C'est un document de 134 pages qui reconstitue les derniers instants avant le crash. Il a été remis il y a un mois à la cour d'appel de Paris. Selon ce rapport, le commandant de bord ou son copilote fumait très probablement dans le cockpit. Des cendriers ont même été changés 2 mois plus tôt. L'incendie se serait déclenché lorsque de l'oxygène s'est échappé du masque du copilote, remplacé 3 jours avant et laissé en mode urgence, avec plus d'air donc. Cette piste de l'incendie était déjà privilégiée par les experts indépendants, mais dans ce rapport, les faits sont détaillés et corroborés par les enregistrements sonores des boîtes noires. On entend notamment le bruissement d'un débit d'air provenant du masque à oxygène avant le déclenchement des alertes incendie. Les autorités égyptiennes, elles, privilégient un acte terroriste, mais elles étaient bien seules et n'ont jamais collaboré ni publié rapport technique ou enquête judiciaire. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Quand une épidémie en cache, voire en provoque une autre, c'est un dommage collatéral de la crise Covid. L'explosion des cas de rougeole, plus 80% en janvier et en février, révèle l'Organisation mondiale de la santé. Pour l'OMS, c'est le signe d'une couverture vaccinale défaillante, notamment en Afrique, car on a pris du retard pendant la pandémie de Covid. 2 ans de pandémie qui ont aussi considérablement perturbé les voyages et l'activité touristique. C'est d'ailleurs toujours le cas en Asie. Plus près de nous, en revanche, retour progressif à la situation d'avant Covid, comme à Barcelone en Espagne. La ville affiche déjà presque complet, mais ça ne fait pas que des heureux, comme l'a constaté Henri de la Guérie.
C'est une image qu'on ne voyait plus depuis plus de 2 ans, la Plaza Real, ses arcades, sa fontaine et ses palmiers noirs de monde. Guide vert sur la table, Béatrice, jeune retraitée lilloise, termine de déjeuner avec ses amis.
On fait régulièrement un voyage culturel et depuis 3 ans, c'est notre premier voyage. C'est formidable, c'est une très belle ville. Il y a beaucoup de choses à voir, à faire, donc franchement, on se régale.
Depuis Pâques, les hôtels de Barcelone affichent des taux d'occupation de 90%. C'est le même niveau qu'en 2019, se réjouit Bruno Allais, consultant.
C'est un tourisme qui veut dépenser plus qu'avant, qui a eu une capacité de garder de l'argent et pouvoir le dépenser maintenant, ce qui est très intéressant. Et aussi, on a des bonnes prévisions pour les prochains mois.
Mais forcément, les nuisances font leur retour, rues saturées, bruit, impact sur l'environnement. Difficile à supporter pour des habitants qui avaient redécouvert leur centre-ville avec le Covid. Jordi vit à côté de la Rambla.
Je crois qu'on n'a rien appris. Il faut trouver un équilibre et quelqu'un doit faire quelque chose pour que ça s'équilibre. Parce que cette ville est à nous quand même. Bien sûr, le tourisme apporte de la richesse, mais on ne peut pas vivre seulement de cela.
Mais après 2 années très compliquées pour l'économie de la ville, la décroissance touristique qu'appelait pourtant de ses voeux la mairie, elle ne semble plus vraiment d'actualité. Barcelone, Henri de la Guérie, France Inter.
Il est 8h15, le livre au même prix partout en France, quel que soit le vendeur.
C'est la loi qui l'impose depuis 1981, le prix unique du livre pour protéger les petites librairies par rapport aux grands distributeurs. Mais qu'en est-il pour les ouvrages exclusivement numériques? Un nouvel acteur vient perturber un système jusque-là bien rodé, les webtoons, des BD que l'on lit uniquement sur son téléphone et que l'on achète en monnaie numérique. Le médiateur du livre vient de s'auto-saisir de cette question, Amélie Perrier.
Les fans les dévorent sur un smartphone ou leur tablette et l'on ne tourne plus les pages dans un webtoon. On scrolle, c'est-à-dire que l'on fait défiler les cases en déroulant le récit vers le bas. On n'achète plus non plus un volume en entier, mais on paie des chapitres avec des coins, des monnaies numériques. Et là, ça coince avec notre loi sur le prix unique du livre, d'où la saisie du médiateur du livre, Jean-Philippe Mochon.
Vous commencez une lecture, un chapitre, et puis à un moment, on vous dit « c'est payant ». Et alors, au lieu de vous dire « c'est payant et ça vous coûtera 1,99 €, on vous dit « ça vous coûtera X coins ». Et ces coins, si vous en achetez beaucoup, ça vous coûte moins cher. Vous pouvez aussi en gagner. Si vous restez longtemps sur la plateforme, vous en gagnez. Si vous partez un contenu sur un réseau social, c'est pareil. Alors évidemment, quand vous payez en coins, c'est beaucoup moins stable, beaucoup moins clair que quand vous payez en euros. Et donc, comment s'applique le prix unique fixé par l'éditeur? C'est quand même une question qu'on se pose.
Pour les webtoons qui n'existent qu'au format numérique, le prix est libre. Mais quand il y a une version papier, la loi du prix unique, a priori, s'applique. Alors le débat va se poursuivre, surtout avec l'arrivée de l'application sud-coréenne Picoma. Après avoir submergé la Corée du Sud et le Japon, elle a l'ambition de devenir numéro 1 en France. Les premiers contenus seront publiés dans les jours à venir.
Enfin, pour les trentenaires qui nous écoutent, et peut-être aussi pour leurs parents, un petit moment nostalgie. Vous reconnaissez peut-être le générique d'Adibou, ce jeu vidéo éducatif qui a marqué les années 90 avant de complètement disparaître. Eh bien, il est de retour ce matin, le petit extraterrestre qui revient dans une application imaginée par les enfants du créateur d'Adibou. C'est une belle histoire.
Oui, très
ça ne vous dit rien.
Non, ça ne me dit rien. Merci Alexis Morel.
Ben moi si.
Oui, on est pas trentenaire, mais moi depuis longtemps malheureusement. Merci Alexis, la météo Marie-Pierre Planchon et merci Léa.
Météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de
allez,
votre sécurité.
Retour entre quinquas, une matinée calme et ensoleillée, Marie-Pierre.
Et oui, Nicolas, car les hautes pressions gonflent encore et le ciel est plus dégagé. Et vous avez pu voir le soleil se lever sur les trois quarts du pays avec un bémol quand même, comme les jours précédents dans le sud-ouest, avec la remontée de l'instabilité d'Espagne. Et le ciel est chargé des Pyrénées au bassin d'Arcachon, à l'est du Massif central jusqu'à l'Occitanie. À noter quand même sur la Bretagne et les Pays de la Loire un voile assez épais, toujours cette bise de nord-est qui souffle près des côtes de la Manche. Sans gelée ce matin, 0 à Pomeray en Meurthe-et-Moselle, contraste avec les 16 à Antibes. Il fait 6 à Nevers, 7 à Strasbourg, 9 à Lorient et 11 à Paris.
Et ça va tourner à l'orage sur les reliefs cet après-midi.
Oui, cette instabilité, Nicolas, va remonter d'Espagne, va encore gagner les Pyrénées, mais aussi le Massif central et les Alpes du Sud. Vous aurez pas mal de cumulus autour de la Méditerranée. Sur les autres régions, ce sera ciel bleu pratiquement partout avec un voile d'altitude à cause du sable qui remonte encore du Sahara, de la Bretagne à la Vendée. Et la bise sera toujours d'actualité près de la Manche avec des températures qui seront en hausse, doublées d'un régime sec. Les agriculteurs et les jardiniers sont inquiets. Il fera 16 à Biarritz, 18 à Deauville, 21 à Ajaccio, 22 à Strasbourg, 23 à Paris comme à Nantes, 24 à Marseille, 25 à Nîmes et même 26 à Cavaillon.
Merci Marie-Pierre. France Inter, 8h18.